Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. J'ai un invité tout spécial pour toi aujourd'hui et on a beaucoup de plaisir ensemble parce qu'on a fait plusieurs podcasts internationaux ensemble. Il est de retour pour nous parler de son défi Agrippa parce qu'il y a quelques années, il avait entrepris le défi. Lui est arrivé un petit accident de parcours, il a dû abandonner, mais il est de retour. Hermano, sois le bienvenu. Vas-y, Hermano.
Bonjour, Denis. Bonjour à toutes et à tous. Je te dis non parce que, Denis, je n'ai pas abandonné ce défi. On pourra y revenir, mais non, je n'ai pas abandonné. Tu as dit en introduction que j'avais abandonné. Non, je n'ai pas abandonné. J'ai mis en pause, okay, mais on y reviendra.
Oui, voilà. Hermano, je rectifie mon téléspectateur. Il a dû mettre en pause et il a repris. Hey, Hermano, quand s'est-on parlé de ton défi la première fois?
Écoute, je saurais plus te dire, mais je crois que c'était début 2021, je crois. Okay. Écoute, il faudrait regarder sur ton site quand est-ce que ça avait, que la vidéo avait été publiée, mais début ouais. 2021 pour moi, puisque en fait ce défi, je l'ai créé, enfin j'ai commencé à le réfléchir, à y penser en revenant de vacances à l'été 2020, après ce Covid que nous avons connu et ce confinement en France. Bon, il y a eu un petit moment pendant l'été où on avait finalement le droit de sortir en restant très loin des gens, et donc voilà, c'est le moment où j'ai commencé à réfléchir à ce défi, et donc j'ai dû t'en parler en septembre-octobre, et on a dû enregistrer début 2021.
Ok. Hermano, décris-moi le défi Agrippa, ça consiste en quoi?
Le défi Agrippa, ça consiste en une traversée de la France, du nord au sud, pour les connaisseurs, pour les auditrices et les auditeurs, pour les gros dodus, comme tu aimes à les appeler, français, qui connaissent le territoire français. Eh bien, c'est pour aller de la plage de Bredune, à côté de Dunkerque, à la frontière franco-belge, jusqu'à Menton, à la frontière franco-italienne. Et l'objectif, ça va être effectivement de traverser la France, plutôt sur le flanc est de la France, alors sans passer par les Alpes, etc. J'ai quand même pas trop complexifié non plus le défi. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais emprunter une ancienne voie romaine qui s'appelle la Via Agrippa, d'où le nom de ce projet. Et les Romains, faisant les choses tellement bien à cette époque, eh bien, ils avaient tracé quasiment une ligne qui va du nord au sud en empruntant les voies les plus faciles. Et donc, on évite aussi une bonne partie du dénivelé français qu'on pourrait connaître si on avait traversé le Jura, les Alpes et autres. Voilà. Pour donner quelques chiffres, parce que...
Ouais,
voilà, c'est ça. J'allais venir sur ces chiffres, puisque je sais que tes auditeurs, chéris, sont des fans de chiffres et de stats. C'est 1457 kilomètres, à peu près 18 000 mètres de D+. On a programmé ça avec Paul, mon entraîneur, que tu connais très bien, qui est, tu l'as dit toi-même, ton double européen, à plusieurs titres. On a programmé ça sur 30 jours, mais avec 27 jours d'activité, c'est-à-dire le défi se déroulera du 15 mai au 12 juin, donc on est sur 27 jours, mais avec 3 jours de pause qu'on a placé à peu près tous les 8-9 jours, de manière à pouvoir non seulement faire récupérer la machine, puisque je ne suis pas un athlète d'ultra-endurance avec un palmarès long comme le bras ou long comme autre chose, mais ça c'est un autre sujet, on ne l'abordera pas sur ton podcast, Denis.
On va éviter pour aujourd'hui, Hermano.
Donc voilà, l'idée c'est de faire 3 jours de pause, plus ou moins disposés de façon équidistante dans le défi, pour faire récupérer la machine et puis aussi pour faire récupérer l'entraîneur qui va finalement passer pas mal de temps à me suivre avec le van, et donc ça va être aussi une grosse charge mentale pour lui, et puis tout simplement aussi parce qu'il y a un aspect logistique, il va falloir recharger, et oui, parce que de temps en temps un athlète et un entraîneur, un accompagnateur, ça mange, ça boit, donc il faut quelques bouteilles d'eau, il faut un petit peu de nourriture, et donc voilà, ce jour de pause va être mis à contribution aussi pour faire ça.
C'est l'alternance course et nage, Hermano, de mémoire.
Effectivement, Denis, c'est alternance course et nage. Donc tous les jours, il y aura entre 50 et 60 km de course à pied. Ça dépend un petit peu des étapes qui ont été fixées. Et on va rajouter chaque jour une heure de nage. principalement en piscine. Malheureusement, j'aurais bien voulu faire ça en milieu naturel, mais la France, même s'il y a beaucoup de cours d'eau, ils ne traversent pas tous la Via Agrippa. Ce sera principalement en piscine. Et puis, dès que la possibilité nous en sera donnée, je nagerai en lac, je nagerai en rivière. Et puis, bien sûr, comme je vais arriver quasiment à la hauteur de Marseille et remonter jusqu'à Menton, je vais longer la Méditerranée. Et donc, on va se faire aussi des sessions dans la Méditerranée.
Hermano, tu me diras si je me trompe, mais tu as abandonné le travail pour devenir un athlète à temps plein.
Mais non, Denis, je n'ai pas non plus abandonné. Je n'abandonne pas dans ma vie. Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je n'abandonne jamais.
T'as mis une pause sur le travail.
Non plus, Denis, non plus, Denis. Tu dis n'importe quoi. Non,
Tu travailles en faisant tout ça?
Je travaille en faisant tout ça. De temps en temps, il faut manger quand même. Mais oui, je travaille. J'ai la chance d'avoir un employeur qui est très compréhensif et très conciliant. J'aimerais lui rendre hommage si je peux le faire sur ton podcast, Denis.
Tu peux le faire. On peut le saluer. Allons-y.
Donc on salue Grégory Herbé, qui est le fondateur de Eplayer, un cabinet de recrutement tech et médias et finances, avec qui je travaille depuis quelques temps. Et lui m'accompagne dans le sens où il est très flexible sur mon organisation professionnelle. Donc je peux travailler le matin, je peux travailler le midi, je peux travailler le soir, je peux travailler la nuit, comme bon me semble, de manière à ce que l'important, c'est que the job is done, que le travail soit fait et que je puisse aussi placer mes entraînements comme je dois le faire selon les recommandations de mon entraîneur.
Hermano, tu es aussi père de 22 enfants de mémoire.
Oui, c'est ça. 22,5. Voilà, on fait les choses. Non.
Oh, Denis.
Denis, je suis.
Je me souvenais que tu étais très productif, Hermano.
Tout à l'heure, je te parlais de la longueur du bras ou d'autre chose. Non. On a dit qu'on allait être correct.
Hors de ce corps.
je suis papa de 4 enfants, dont les 2 plus grands sont déjà des adultes. Ils sont déjà installés. Ils vivent déjà dans leur chez eux. Donc, bien sûr, on reste un parent ad vitam aeternam, mais il s'assume. En revanche, les 2 derniers ont 14 et 2 ans et demi, donc ça demande aussi pas mal d'implication au quotidien.
Oui, waouh, c'est toute une organisation. Et tu es un jeune homme de 43 ans, Hermano?
Exactement, presque 43 ans. J'aurai 43 ans à la fin de ce mois de mars, le 30 mars exactement. Donc dans 15 jours, on enregistre le 15 mars.
OK, d'accord, enregistré. D'accord. Et là, Hermano, qu'est-ce qui t'est... Pour ton défi Agrippa, tu le fais pour également financer des organisations qui te tiennent à cœur.
Tout à fait, Denis. L'idée de ce défi Agrippa, c'est dans un premier temps de me dépasser, d'aller au bout de mes limites, mais c'est aussi de soutenir 2 causes qui me sont chères, à savoir Imagine for Margot, qui est une organisation qui lutte contre le cancer des enfants, et Une bouteille à la mer, qui est une fondation qui éveille les consciences aux désagréments que peut connaître notre environnement. Alors, je sais que de ton côté de l'Atlantique, il y a un vieux blond qui a dit il y a quelques temps que le réchauffement climatique, ça n'existait pas, qu'il n'y avait pas de problème au niveau de la planète, ni au niveau du climat, qu'il fallait continuer à dépenser, à consommer, à surconsommer, etc. etc. Moi, ce n'est pas tellement ma vision des choses ni ma vision du monde, et c'est pour ça que je veux soutenir cette association qui fait beaucoup de choses pour mettre en avant tout l'impact de l'homme sur la planète et puis les déboires que connaît cette planète.
Comment obtiens-tu ton financement pour transmettre de l'argent à ces compagnies, à ces organisations?
Eh bien, c'est un petit peu le point noir de ce défi. Jusqu'à présent, sur cette deuxième version, sur cette deuxième tentative, tout se passe très bien, que ce soit en termes d'entraînement ou autre, mais on pourra y revenir. Là où le bas blesse un petit peu, c'est sur la partie financement. Moi, je me suis engagé dès le début, quand j'ai construit ce défi, à reverser au moins 10% de ce que je lève à chacune des associations. Donc 10% pour Imagine for Margot et 10% pour Une bouteille à la mer. Ça, c'est dans le worst case scénario. Dans le pire des cas, c'est-à-dire j'arrive pas à lever suffisamment d'argent pour ne serait-ce que rentrer dans mes frais. Et donc, je mettrai plus de ma poche pour apporter au moins 10% de tout ce que je lève à ces organisations-là. Si, malgré tout, j'arrive à lever suffisamment d'argent, eh bien tout ce que je lèverai en plus sera pour ces associations-là. Moi, je le fais absolument pas pour me faire de l'argent, je le fais pas pour me faire connaître, je le fais pas pour la gloire, je le fais pour me dépasser et pour mettre en lumière ces deux associations, ces deux fondations qui font des choses magnifiques, que ce soit pour les enfants ou pour la planète. Donc, comment je finance ça? Eh ben, écoute, il y a de généreux donateurs particuliers, anonymes, qui sont touchés par mon défi, par mon action, et qui donc vont sur la plateforme Patreon ou vont sur la plateforme Ko-fi. Le plus simple, c'est agrippa.me, et il y a les petits boutons pour aller donner sur l'une ou l'autre de ces plateformes.
OK,
et
puis, c'était ma question, Bermano. Si les gens qui nous écoutent sont touchés par ce que tu fais, où doivent-ils se rendre, sur quelle page doivent-ils se rendre pour faire des dons?
Eh bien, c'est sur agrippa.me, agrippa.me. Alors, pour ceux qui sont un petit peu latinophones, donc qui parlent italien ou qui parlent espagnol, ils auront noté le Agrippa. Mais c'est un petit jeu de mots pour dire essayer de m'attraper, voilà. Donc c'était un jeu de mots sur non seulement le nom de la voie romaine que je vais emprunter, mais aussi ce nom de domaine. Donc agrippa.me, et puis dessus vous allez voir.
Mano, tu me diras si j'ai bien en dessous de.
C'est tout à fait ça, Denis.
C'est tout à fait ça. Donc agrippa.me pour faire des dons.
Exactement.
Défi.
Voilà, Denis. Je ne sais pas quoi dire, tu es un podcasteur magnifique, je te laisse me guider, Denis.
Absolument, cher Hermano. Restons dans le domaine de la finance, Hermano. Quel objectif aimerais-tu atteindre en termes de financement et où en es-tu?
Écoute, pour rentrer dans mes frais, c'est-à-dire pour que, à moi, ce défi ne me coûte pas grand-chose, j'ai besoin de 5 000 euros. 5 000 euros, ça correspond à l'allocation du van, parce que, je le disais tout à l'heure, Paul Sardin, qui est mon entraîneur, va conduire le van pour qu'il puisse me ravitailler tous les 10-15 kilomètres, pour que le midi on puisse faire une pause après 25 ou 30 kilomètres et avoir de quoi manger, puisque c'est un van avec une petite cuisine aménagée, et puis à la fin de la journée, bah, tout simplement pouvoir dormir. Et puis les jours où il pleut, il neige, il grêle, il vente, parce que oui, on est en France, hein, même au mois de mai ou même au mois de juin, ça peut arriver, eh bien on a aussi un toit sur la tête. On aurait pu envisager de faire tout ça en mode très route, en mode très aventurier, partir avec une toile de tente sur le dos. J'ai une famille, j'ai un boulot. J'avais pas non plus 6 mois à donner à cette cause-là.
Ouais, c'est voilà. Ça. Mais donc là, tes frais initiaux sont de 5 000 euros.
C'est ça.
T'as réussi à recueillir combien jusqu'à présent?
Pour l'instant, j'ai recueilli 2000 euros pour avancer sur ce projet-là. Donc voilà, comme je l'ai dit, si je n'arrive pas à lever plus de fonds, eh bien je donnerai au moins 10% de cette somme-là à chacune des associations. Donc sur 2000, bah, ça fait 200 à Imagine for Margot et 200 à Une bouteille à la mer. Après, mon objectif à moi, il est de leur en donner le plus possible. Donc si on arrivait à lever 10 000 euros, eh bien ce serait juste exceptionnel. Parce que moi, j'en garderai. Moi, j'utiliserai les 5 000 premiers pour financer ce défi. Et puis, les 5 000 qui restent, eh ben, ce sera 2 500 pour Imagine for Margot et 2 500 pour Une bouteille à la mer. Voilà.
Je suis assez étonné, Hermano, par exemple. De mon côté, il me semble que j'irais botter des culs européens pour les inciter à financer ton projet, parce que c'est très honorable et ton intention n'est pas de faire de l'argent avec. Contrairement à bien des gens que moi, j'ai vus, lancent des projets. Leur idée, c'est de faire de l'argent avec ça, de se payer un voyage extraordinaire et de remettre quelques sous à une organisation quelconque. Dans ton cas, c'est je paie mes frais, je donne le reste de l'argent aux organisations qui m'intéressent.
C'est exactement ça, Denis. Moi, encore une fois, mon intention, c'est pas de devenir riche, c'est pas de courir après la gloire. Mon intention, c'est de me dépasser et de soutenir ces deux causes-là. Je ne cache pas que, en arrière-plan de ma pensée, et je dis pas trop fort pour pas que mon épouse l'entende, j'aimerais bien que, une fois que le défi sera terminé, eh bien, peut-être quelqu'un, une organisation, reprenne cette idée de tracer à travers la France et puis en fasse une compétition, en fasse, je sais pas, une rencontre annuelle, biannuel tous les 5 ans pour lever des fonds pour ces causes-là, par exemple. Ça fait partie de mes rêves, mais en l'état actuel des choses, pour cette première édition que je vais faire moi en off, l'objectif c'est de me dépasser et de lever de l'argent, le maximum d'argent possible pour ces associations-là.
Dans le premier essai, Hermano, tu t'es entraîné, t'es arrivé une blessure, il a fallu que tu mettes en pause le projet. Explique-nous tout le volume d'entraînement que tu avais fait, ce qui t'est arrivé et pourquoi tu as dû mettre en pause.
Alors, on va revenir à la base. On en parlait tout à l'heure. À quel moment on s'est parlé, plus ou moins? Je te dis, on s'est parlé, je crois, fin 2020 et on a dû enregistrer l'épisode de podcast début 2021. Ouais. Qu'on le retrouvera sur le magnifique site internet de Denis Boucher.
D'ailleurs, avant de laisser partir, je vais le mettre en conjonction. Ouais, je vais mettre les deux. Je vais mettre le premier, celui-là.
Ouais. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, après les nombreux podcasts que j'avais déjà enregistrés, après le nombre ahurissant de sportives et de sportifs de haut niveau et de professionnels du domaine du sport qui avaient accepté d'échanger avec moi, que ce soit sur des podcasts ou autres, que finalement, pour réussir un projet de cette ampleur-là, le seul moyen d'y arriver, c'est de s'entourer d'une équipe, de s'entourer d'une team. Et donc, j'ai voulu constituer autour de moi une équipe. Tu en faisais partie, Paul Sardin, mon entraîneur, en faisait partie, et voilà, on a commencé un petit peu comme ça, en mode route, en mode aventurier. Tu m'as conseillé sur la partie nutrition, et puis de concert avec Paul, tu as revu un petit peu le plan d'entraînement que Paul proposait. C'est vrai qu'on a mis un petit peu de temps au démarrage, à se mettre en route. Je pense que l'état d'esprit de Paul à ce moment-là était de tester un petit peu ma motivation, mon envie et le fait que j'allais réussir à durer sur le temps. C'est vrai que en y pensant fin 2020 et avec un départ prévu en mai 2022, ça faisait quand même 18 mois. 18 mois, c'est long dans la préparation d'un objectif sportif. Et donc, on a commencé un peu tard la partie préparation physique, véritablement, entraînement pour le défi. Malgré tout, on avait déjà tous les deux beaucoup travaillé sur la partie nutrition. J'ai rempli au quotidien mon journal alimentaire et tu me faisais des remarques sur il faut manger ci, enfin tu devrais éviter de manger ceci, cela, telle quantité, etc. Et je te remercie pour tous ces conseils. Et quand on a commencé finalement à sérieusement préparer la partie entraînement physique avec Paul, très certainement que on est monté beaucoup trop vite en charge et du coup, eh bien après 2 mois d'entraînement où on est passé de 90 km par semaine, 90 km de course à pied par semaine à plus de 130 km par semaine, la montée en charge a été trop forte, trop violente et j'en suis arrivé à me blesser tout simplement. Je dois dire qu'à ce moment-là, j'ai fait l'erreur que pourtant je sais qu'il ne faut pas faire, mais je l'ai quand même faite. Et peut-être que ça va aider aussi tes auditeurs à ne pas reproduire ce genre d'erreur. J'ai reçu plusieurs alertes, plusieurs signaux de la part de mon corps. J'ai commencé à avoir mal aux genoux, j'ai commencé à avoir un petit peu mal au dos, j'ai commencé à avoir un sommeil de moins bonne qualité. J'ai commencé, moi qui avais pour ce défi entamé un régime végétalien et puis un régime... enfin. Je dirais pas que j'ai entamé un régime. J'ai modifié mon alimentation pour arrêter de manger des protéines animales et pour arrêter de manger du sucre, surtout du sucre transformé à tout va. Je m'autorisais un petit carré de chocolat de temps en temps. Et je commençais à ressentir à nouveau cette envie, ce besoin de manger du sucre. Voilà. J'ai reçu des alertes de la part de mon corps et je les ai pas écoutées. Et puis, un jour, à l'entraînement, un simple entraînement de 10 km à une faible allure, et au bout de 5 km, j'ai senti une douleur très vive au niveau de mon pied. J'arrivais plus à poser le pied par terre. On a fait des examens et on s'est rendu compte que c'était une fracture de fatigue. Et là, le couperet est tombé. On était à 2 mois du départ et le médecin a dit, de toute façon, là, c'est 6 semaines, sans entraînement. Vous pouvez rien faire. Vous pouvez marcher un petit peu, mais plus courir, terminé.
C'était réglé. Vas-y.
C'était réglé.
Il n'y a plus d'Agrippa.
Il n'y avait plus d'Agrippa 2022. Le départ était prévu 8 semaines après. On était à 6 semaines du départ. C'était terminé. De toute façon, enfin, il y avait 6 semaines d'arrêt. C'était inenvisageable. Après, on aurait évidemment pu se dire, c'est pas grave, on va décaler Agrippa au courant de l'été ou à la fin ou au printemps, enfin, à l'automne ou à l'hiver. Bon. Il s'avère quand même que le projet consiste en une traversée de la France. En France, on a des conditions climatiques qui ne sont pas forcément idéales à ces moments-là, qui sont en plus relativement aléatoires. S'entraîner de façon relativement intensive pendant tout l'été et prendre le risque d'une canicule et traverser la France pendant une canicule, on s'est dit que ce n'était peut-être pas une très bonne idée. Et donc, effectivement, on a mis le projet en pause.
Ouais, pour mais une Hermano, période. Il y avait... quoi, c'était une bonne idée que tu le fasses parce que il y avait une notion d'analyse de ce qui s'était passé. Il fallait vraiment que tu reviennes pour faire une analyse de tout ce qui s'est produit comme erreur volontaire ou involontaire pour ne pas les répéter. Et à court terme, ça aurait été un risque énorme de reprendre trop rapidement.
Tout à fait, mais je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que finalement, avec Paul, on s'est dit, là, De toute façon, vu l'arrêt obligatoire d'activité physique, c'est pas la peine de partir au casse-pipe. Donc, pour un départ en mai 2022, c'est hors de question. Et puis, on s'est dit, on va se prendre une pause indéterminée. Il m'a dit, réfléchis de ton côté, repense le projet si tu veux, réfléchis à une date. Mais sors-toi ça, dans un premier temps, sors-toi tout ça de la tête. Quand tu seras guéri, tu pourras commencer à y repenser, à y réfléchir. On se mettra autour d'une table et on verra ce qu'on fait. Et puis, effectivement, ça s'est fait.
Je t'interromps parce que ce qui m'intéresse, juste un peu avant, au moment où tu apprends que tu dois mettre en pause ton projet, quel est ton état d'esprit?
Mon état d'esprit est, comment dire? Bah déjà, ça faisait presque un mois que j'en parlais tout à l'heure, j'avais des alertes de mon corps qui, en gros, me faisaient comprendre que ça allait pas pouvoir continuer comme ça. Je poussais la machine trop fort, trop vite, trop loin. J'avais pas observé une montée en charge progressive et j'ai pas voulu écouter ces mises en garde de mon corps. Alors, ceux qui nous écoutent se disent peut-être, mais c'est qui ce malade? Il est complètement barré. Mais je pense qu'il y en a quand même une partie qui comprennent. Tu dis souvent qu'il faut parler à ton corps et qu'il faut écouter ton corps, Denis.
Ben absolument. Et la plupart des gens ne le font pas. On est tellement orgueilleux, on croit tellement qu'on est invincible, qu'on peut tout réaliser par la force de notre esprit, qu'on n'écoute pas les signaux de base, comme tu le mentionnes, que notre corps nous envoie. Et là, tout ce que ton corps te disait, c'est « Hermano, c'est trop. Hermano, c'est trop. Hermano, c'est trop. Hermano, t'es con, t'écoutes pas. Hermano, t'es vraiment rendu très con. » Hermano, je suis plus capable d'endurer. Hermano, on arrête ça là.
Voilà. Ou comment tu dis, Hermano, t'es cave, c'est ça?
T'es cave, oui. J'ai enseigné cette expression en France.
Et donc, si tu veux, quand le couperet de la blessure et du verdict de la blessure est tombé, quelque part, ça a été un soulagement. Déjà parce qu'on met... On met des mots sur cette blessure. C'est pas juste une vue de l'esprit. C'est pas bah tiens, je pose le pied par terre, j'ai mal. Mais en fait, physiquement, tu vois pas le pied enflé. Alors, juste pour préciser, toi, t'es médecin, tu pourras certainement en parler bien mieux que moi. Enfin, t'es médecin, tu es docteur en physiologie. Ce que j'ai compris d'une fracture de fatigue, c'est qu'en fait, c'est un abus de langage. On parle de fracture de fatigue, mais en réalité, c'est un stress trop important qui est exercé, en l'occurrence, sur un os, et que finalement, il y a une ou des fissures et qui malgré tout, sont très douloureux et empêchent de pouvoir continuer à pratiquer une activité physique. Et si on continue malgré tout à courir au-delà de la douleur, là, ça se transforme véritablement en fracture, c'est-à-dire que l'os se fracture, se casse, de façon nette, donc on a deux morceaux de l'os de chaque côté, soit on a juste une fracture, voilà, puis l'os tient quand même avec un petit bout. Mais bon, bref, on n'en était pas à ce stade-là, on était à la... au stress de fatigue, à la première étape qui est il y a des fissures sur un des os de mon pied qui m'empêche de poser le pied, mais encore une fois on ne le voit pas physiquement, c'est pas enflé, il y a pas de sang, il y a pas de douleur, c'est pas une fracture ouverte, et donc au bout d'un moment tu te dis mais en fait est-ce que c'est ma tête qui va pas bien? et finalement quand tu fais des examens, et en l'occurrence on parle là d'une scintigraphie, il me semble, si je ne m'abuse, que c'est le seul moyen de pouvoir confirmer une fracture de fatigue, eh bien déjà d'un côté ça soulage, ensuite ça soulage aussi d'un autre côté, puisque avec cette montée en charge qui n'a pas été si progressive que ça, mais qui finalement jusqu'à ce que je commence à avoir des signes de mon corps, j'avais l'impression au bout d'un moment d'être invincible. C'est un peu étrange à dire, mais tu vois, tu commences à courir, je me remettais en forme, je courais 30 km par semaine, et puis 50, et puis 60, et puis après on est passé à 80, et puis à 100, et puis après tu passes la barre des 100 km par semaine, ça commence déjà à être pas mal, et puis 120, et puis 130, et puis on se dit, bah, la semaine prochaine, on va monter à 150, parce que le plan, c'est de monter jusqu'à 180 avant le défi. Et puis entre 130 et 150, il se passe un truc, mais tu réalises pas, en fait. Effectivement, tu te dis, ton corps t'envoie des signaux. Ton corps te dit, Hermano, t'es con. Hermano, t'es vraiment très con. Mais toi, tu te dis, mais non, je suis un bonhomme, je suis un guerrier. Je vais y arriver. Jusqu'au jour où, bah non, tu n'y arrives pas. Et donc, ça aussi, c'est un soulagement quelque part. Et puis, évidemment, t'as aussi ce gros coup de moins bien, ce blues du marathonien ou ce blues du sportif blessé, tout simplement, qui est, je m'étais fixé un objectif, je ne peux pas le réaliser. qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire maintenant. Voilà. Depuis des mois, ma vie tourne autour de ce défi, entre autres, hein, entre le boulot et la famille. Ouais. Autour de l'entraînement, je peux plus m'entraîner. Je peux même pas aller nager parce qu'en fait, si je vais nager, je sollicite quand même mon pied, je fais des virages, j'appuie sur le mur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'exagère, mais t'es presque à te dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant.
Ouais. Un état dépressif.
Ouais. Quasiment. Bon, est-ce que c'est dû aussi à cette décharge d'hormones que tu n'as plus quand tu pratiques plus d'activité physique? Alors ça, tu en parles très souvent et tu en parleras très bien, tu en parleras bien mieux que moi. Mais quand on fait du sport, quand on pratique une activité physique, on sécrète plusieurs hormones et notamment des hormones du plaisir qui font que on se sent dans un état apaisé, dans un état de plaisir. Parfois, certains ou certaines arrivent à atteindre un état de flow. Moi, j'avais l'impression d'atteindre cet état de flow très souvent en allant m'entraîner. Et puis là, t'as plus rien en fait. C'est comme un drogué qui, du jour au lendemain, tu lui retires sa clope, tu lui retires sa seringue, un alcoolique, tu lui retires sa bouteille d'alcool. Qu'est-ce qu'on fait?
Exactement, c'est la meilleure description que tu peux pas faire. T'étais en sevrage.
C'est ça.
En sevrage d'exercice. C'est comme ça.
Voilà, un sevrage que tu n'as pas choisi en plus, parce que certaines personnes qui décident de se sevrer passent dans cet état de sevrage volontairement. Là, c'est pas volontaire, tu l'as pas choisi, tu t'es blessé, tu peux rien faire d'autre.
Est-ce qu'à un moment, tu as vécu ça comme un échec?
Non, Denis. Écoute, mais ça c'est... fait...
C'est non, que la ça plupart fait... des gens auraient vécu ça comme un échec majeur. Comment l'as-tu géré? Je veux qu'on mette l'emphase là-dessus, Hermano, parce que c'est très important. La plupart des gens dans la vie, dans n'importe quel aspect de la vie, dès qu'ils rencontrent un événement, une situation qui les font dévier de leur objectif, entrent dans une forme de négativisme absolu où ils ne sont pas capables de se raccrocher au plan pour atteindre leur objectif. Qu'as-tu fait dans ton cas?
Alors déjà, je dois... Et je le fais systématiquement, mais je dois véritablement rendre hommage à Paul, Paul Sardin, mon entraîneur. Oui, je cite très souvent son nom, parce que à chaque fois qu'il prend en charge un athlète, et ça fait 15 ans qu'on se connaît, donc ça fait longtemps qu'il m'a pris en charge sur plusieurs sujets, on a toujours gardé une porte ouverte à ce que certains pourraient appeler un échec, une défaillance, une failure, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire l'impossibilité de continuer la préparation, ou le défi, ou pendant une compétition. Et donc, on s'y prépare, finalement. Alors là, on est plus dans le domaine, éventuellement, de la préparation mentale, mais ça fait partie de l'entraînement. On en parle souvent, et on se dit, si ça marche pas, si l'entraînement ne fonctionne pas, si pendant le défi, on n'y arrive pas, si pendant le défi, tu cours sur une route, tu traverses à un moment, et il y a un taré qui arrive avec sa voiture et qui te renverse, stop, terminé, t'es blessé, tu peux pas continuer. Mais c'est pas malgré tout, ça n'est pas un échec, ça peut arriver. Donc on s'y prépare. Et puis je l'ai pas vécu non plus comme un échec pour la bonne et simple raison, Denis, que c'était une blessure. Je pouvais envisager un jour de remarcher, de recourir, de renager, de refaire du vélo, de reprendre n'importe quel type d'activité. Et donc plutôt que de regarder en arrière ou plutôt de me dire là maintenant c'est la merde, c'est fini, je ne peux plus rien faire. J'essayais de regarder le roi devant et de me dire de quoi sera fait demain. Alors oui, je le disais tout à l'heure, il y a un moment, tu te dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant que je peux plus courir, maintenant que ça fait des mois que ma vie tourne autour de ce défi, maintenant que ça fait des mois que ma vie tourne autour de l'entraînement, maintenant que ça fait des mois que la vie de ma famille tourne autour de l'organisation pour cet entraînement. Mais malgré tout, je me disais, ok, là, pour l'instant, je ne peux pas faire d'activité physique, mais dans quelques semaines, dans quelques mois, on pourra reprendre et on pourra réenvisager de remettre sur pied ce défi. Ou pas, qui sait?
Ouais. Ce que je trouve, et je vais faire un hommage à Paul Sardin, parce que je veux juste mettre les gens en contexte. On s'est souvent parlé, toi, Paul et moi, et comme je le disais souvent, je trouve que Paul est mon clone français, mon clone de l'autre côté de l'Atlantique. Et on est deux vieux, là. On est nés la même année, on a le même âge. Et Paul a une vision à long terme de l'entraînement. Et c'est ce que tu m'as décrit. C'est que l'échec ne fait pas partie du processus puisque tu as une vision à long terme. Dans son processus d'entraînement, il peut arriver une erreur, il peut arriver une blessure, on va corriger ça, mais on va se donner le temps de faire et de réaliser le défi correctement. Et c'est très rare que les entraîneurs ont cette vision, parce que la plupart, c'est on va faire les choses le plus rapidement possible, dans le plus court laps de temps possible, et peu importe ce qui arrive à l'athlète, on va le pousser au-delà de ses limites. Mais ce n'est pas la mentalité de Paul.
Non seulement ce n'est pas la mentalité de Paul, il a effectivement une vision très long terme, en plus de ça, et je l'ai dit, ça fait longtemps qu'on se connaît, je pense qu'on peut le dire, on est de très proches amis, et je me dis que peut-être ça joue aussi dans la relation qu'on peut avoir, dans le fait que lui me comprenne et que moi je le comprenne, et qu'on arrive à construire ce projet ensemble et que lui arrive à m'accompagner. Mais, et j'insiste encore une fois là-dessus, ce n'est pas sa mentalité. Il encadre d'autres athlètes, il a encadré d'autres athlètes, il était entraîneur dans des clubs de triathlon au Luxembourg, il avait toujours une vision long terme. Son objectif, c'est pas de faire monter en compétences, en puissance, en performance des athlètes pour les amener, je sais pas, à des championnats nationaux, à des championnats internationaux, à des Jeux Olympiques, au détriment de l'état de santé de l'athlète. Alors,
de la personne.
Quelqu'un qui est talentueux, et là je regarde, enfin je pourrais regarder mon fils, mais il est à quelques centaines de kilomètres de moi, mais mon premier fils est véritablement talentueux. Je dis pas ça parce que c'est mon fils, mais réellement, il a un physique de coureur, il est très talentueux, il a fait du sport dans sa jeunesse, il avait vraiment un don pour ça. Malgré tout, le talent sans travail, pour moi, ça ne donne rien. Et voilà, il était talentueux, mais il a pas voulu travailler ces points-là. Mais n'importe quel athlète, un minimum talentueux, si tu le fais travailler vite, dur et sur un laps de temps très court, comme tu l'as dit, oui, tu peux peut-être l'amener aux Jeux Olympiques. Mais combien de Jeux Olympiques il va faire? Combien on connaît d'athlètes qui ont duré dans le temps, qui ont fait 2, 3, 4 éditions des Jeux Olympiques? Et c'est pas qu'une question d'âge. Quand on dit un athlète à 30 ans, il est bon pour la retraite, il y en a certains. Mais ouais, c'est souvent ceux qui se sont mal entraînés ou qui ont été mal encadrés.
C'est ceux qu'on a littéralement détruits, là.
C'est ceux qu'on a épuisés, qu'on a fatigués, qu'on a détruits. Moi, je suis persuadé qu'un athlète, au sens noble du terme, un athlète ou une athlète qui prend soin de lui, qui se connaît et qui est bien encadré par une équipe et pas uniquement par un entraîneur, peut perdurer dans le temps. Et j'ai des exemples auxquels je pense, et je suis persuadé que si on évitait de mettre la performance à tout prix devant, d'élire la performance comme le Saint Graal, on arriverait à une performance bien meilleure.
Ouais. Ben, tu vois, Hermano, on a lié malheureusement dans le domaine du sport la performance avec la notion d'épuisement et de dépassement personnel, où on croit encore que l'athlète qui va atteindre des niveaux ultimes est celui qui va tout faire au détriment de son corps. Quand en réalité, c'est vraiment une progression étape par étape, très lente, avec une structure globale d'entraînement où tu vas t'occuper de la nutrition, de l'entraînement, de la psychologie de l'athlète, de l'aspect émotionnel, de la vie familiale. On tente de séparer l'humain de la performance elle-même quand il faut tout considérer d'une personne pour être capable de la propulser vers des sommets, et c'est pas en l'épuisant qu'on y arrive.
Je suis totalement d'accord avec toi, Denis. J'allais t'appeler Bertrand tout simplement parce que je repensais à Bertrand Soulier que tu as reçu sur ce podcast-là, oui. qui lui a édicté comme règle il y a longtemps sa fameuse méthode SAM, sommeil, alimentation et mouvement. Mais comme tu le disais, le sport, l'entraînement et voire même la performance, puisque il faut pas se le cacher, c'est pas non plus un gros mot, la performance, c'est un ensemble, il faut tout prendre en considération, le sommeil, l'alimentation, l'entraînement, la famille, l'environnement, l'aspect psychologique, tout, et pas uniquement s'épuiser à la tâche.
Un aspect que tu as mentionné, Hermano, sur lequel je vais mettre un mot, et que je te dirais, selon moi, 99% des athlètes oublient, et des entraîneurs, c'est la gestion des réserves énergétiques. Dans ta première préparation pour le défi Agrippa, tu as tellement augmenté le volume rapidement que tu as épuisé tes réserves énergétiques. Tu ne les as pas gérées, tu les as épuisées. Ça t'a amené une fracture de stress et à l'interruption de ton projet. Mm-hmm. Tandis que là, ce que je comprends et de ce que j'ai vu de ton programme d'entraînement dont on s'est parlé hier, toi et moi, avec Paul, il y a vraiment une progression nettement plus efficace, et t'es à un mois de ton défi?
Deux mois.
Et t'es pas dans la même situation à ce moment-ci que tu l'étais à la première préparation.
Non, on n'est pas du tout dans la même situation. La première raison, c'est, et je le disais tout à l'heure, pour la première tentative, on a finalement commencé l'entraînement un peu tard. On a commencé en novembre 2021 pour un départ en mai 2022, mais en novembre, quand je dis on a commencé, c'est qu'on a commencé de zéro. On a commencé à faire des sorties. On était sur 50 km par semaine et on est monté très vite en charge. C'est-à-dire de novembre, c'était un petit peu une remise en forme. Décembre, on avait déjà commencé à monter vite. Et puis janvier, février, on était déjà arrivé à plus de 130 km par semaine. Et c'était un petit peu aussi une tentative. Avec Paul, on s'est dit, ça peut casser comme ça peut passer. Est-ce qu'on prend le risque? Parce que là, on est trop short, véritablement, en termes d'entraînement. On a testé, okay. On a vu que c'était pas passé. Là, sur cette deuxième tentative, on a commencé à en parler début août. Donc, tout le mois d'août, je me suis remis en forme. J'ai couru à la sensation, sans aucun plan, à l'envie. J'ai allé courir de temps en temps 5 km, de temps en temps 25 km. De temps en temps, j'allais retrouver des copains. Et puis, je me faisais une séance où là, bouge tes oreilles, Denis. J'épuisais mes réserves énergétiques. Simplement, pour jouer, j'allais jouer à courir vite avec les copains sans regarder dans quelles conditions. Mais c'était sur 5 ou 10 ou 15 km. En étant conscient de ce que je faisais. C'est-à-dire, j'allais pas courir vite pour courir vite et recommencer l'après-midi ou recommencer le lendemain et complètement me vider de toutes mes réserves énergétiques. J'essayais de faire ça malgré tout en conscience. Donc ça, c'était sur le mois d'août. Et puis après, à partir de septembre, octobre, novembre, décembre, là, on a commencé à monter beaucoup, beaucoup plus progressivement en charge. On a aussi commencé à faire autre chose, c'était s'entourer avec une équipe, et tu l'as dit tout à l'heure, qui est, entre guillemets, pluridisciplinaire. Et là, si tes auditeurs vont sur le site agrippa.me, ils peuvent regarder dans le menu, il y a un lien vers la team, et là, vous verrez que les gens qui ont décidé de croire dans ce projet et de m'accompagner, et d'ailleurs, je leur rends hommage, parce que c'est des gens qui le font gracieusement aussi, ils prennent de leur temps, ce sont des experts dans leur domaine, et ils prennent de leur temps, la liste est longue, en fait. Il y a un préparateur mental, Marc Mouezza, il y a une spécialiste du sommeil, Lucille Maffre. Il y a un spécialiste qui travaille à l'INSEP, donc l'Institut National du Sport et de la Performance en France, qui m'accompagne sur la partie statistique. Il y a un spécialiste de la respiration, Marc Plata. Il y a une personne qui m'aide un petit peu aussi à penser à la ligne éditoriale pour communiquer sur les réseaux, etc. Et puis évidemment, il y a Paul Sardin, l'entraîneur. Donc voilà, ouais. Là, on a vraiment monté une équipe, chacun dans son domaine un petit peu de compétences, qui me donne son input sur comment est-ce qu'on va pouvoir aller au bout de ce défi en ayant le temps de préparer les choses correctement et d'adapter le corps à cette demande.
Hermano, il y a une chose que tu fais actuellement quand tu me décris l'équipe qui est alentour de toi, c'est que tu te comportes comme un expert. Un expert est quelqu'un qui va inclure dans son apprentissage des détails que les autres ne veulent pas aborder. Tu me parles de respiration, tu me parles de tous les spécialistes, le sommeil, cet ensemble d'éléments que la majorité des athlètes vont oublier ou omettre, mais toi, tu les as intégrés et c'est cet ensemble de détails qui vont te permettre de te propulser, d'atteindre ton défi. Ce que tu n'avais pas la première fois, tu n'avais pas cette équipe-là au complet.
J'avais pas cette équipe-là au complet. On avait commencé avec toi, avec Paul, à créer cette équipe, mais encore une fois, j'ai certainement péché par orgueil à vouloir y aller plus vite que prévu, et puis à me dire que finalement, avec deux ou trois experts spécialistes, ça passerait. Mais non, finalement, deux ou trois spécialistes, aussi bons et compétents soient-ils, je pense que c'est peut-être un petit peu trop léger, mais aussi pour échanger sur différents points de vue. Il est pas rare qu'on se fasse des calls à plusieurs et puis chacun donne un petit peu son avis sur tel ou tel sujet. Et c'est vraiment très fort en enseignement. Tu vas peut-être me poser la question, pourquoi est-ce que j'ai voulu aller jusqu'à créer cette team autour de moi, finalement. J'en ai parlé tout à l'heure et tu t'en as parlé en introduction. On a déjà fait des podcasts ensemble. Moi, je produis des podcasts depuis 2014. J'ai déjà pu échanger avec, je ne saurais même pas dénombrer, mais peut-être une centaine, peut-être deux centaines de sportifs, de spécialistes dans leur domaine. Et je l'ai dit, tous te partage le fait que pour réussir un objectif, pour atteindre un objectif, pour réussir une performance, il faut savoir s'entourer. Même ouais. le plus grand sportif de tous les temps, à un moment, a besoin d'être cadré, d'être coaché par un entraîneur, par un nutritionniste, par un spécialiste du sommeil. Parce que finalement, je pense que le meilleur moyen de pouvoir avancer, c'est d'être challengé sur ses propres croyances.
Oui, exactement. Et une chose qui est importante, moi, c'est ce que j'appelle, c'est le principe d'éliminer les possibilités de résistance. Puisque tu as une équipe alentour de toi, ça élimine tous les détails auxquels tu dois penser par toi-même et les risques de te tromper. C'est qu'on prend l'athlète, tu as une équipe alentour qui le place dans une bulle et on va dire « Hermano fait ceci, Hermano fait cela, Hermano corrige ceci, Hermano, tu es dans la bonne voie. » Et tu n'as pas à penser, tu n'as pas à réfléchir, tu n'as pas à douter, tu as juste à suivre. Mm-hmm. Ça doit changer beaucoup.
Ça change énormément, mais j'en ai déjà parlé, notamment dans mes podcasts où on me posait la question, où j'échangeais avec des sportives et des sportifs sur ce sujet-là. En fait, comme tu le dis, le fait d'être accompagné sur tous ces sujets-là, ne serait-ce que même sur la partie entraînement, ça t'enlève une énorme charge mentale. On te dit, écoute, je te suggère de faire ça. Je pense que si tu fais ça, tu vas y arriver. Je pense que si tu fais ça, c'est bénéfique parce que ça aussi, je demande souvent pourquoi. J'aime comprendre pourquoi. En fait, ça te libère une charge mentale énorme. Tu n'as pas besoin de penser à l'entraînement. Tu regardes ton agenda, tu regardes ton fichier Excel, tu regardes ton Nolio si tu utilises Nolio ou toute autre plateforme de suivi des entraînements. Si possible, quelques temps avant, sinon au moment même où tu vas partir faire ton entraînement, ah ben voilà, aujourd'hui j'ai 35 bornes à faire, le ravito il est prêt, les vêtements ils sont prêts, allez hop, c'est parti. T'as pas besoin de te prendre la tête, te poser des questions, et c'est pareil pour tous les sujets finalement, que ce soit l'entraînement, que ce soit le sommeil, que ce soit l'alimentation, que ce soit la respiration. Jusqu'à il y a peu, tu sais, pour moi la respiration c'était inné, hein, tu nais, tu respires, et puis voilà. Ouais. Mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça la respiration.
Oui, effectivement, c'est... Tous, ce sont tous des détails qui viennent bonifier tes capacités. Et donc, c'est certain que tu augmentes tes capacités de façon exponentielle par rapport à ce que tu faisais avant. C'est une très grande différence. Il y a une chose que tu m'as écrite il y a peut-être la semaine dernière. Tu m'as dit « Hey Denis, tu me corrigeras là, si c'est pas les tests, ce ne sont pas les termes exacts. Hey Denis, j'ai fait une petite sortie de 30 km. » Pour toi, 30 km, c'est rendu quelque chose de tout à fait normal et naturel, alors que d'autres personnes, à s'entraîner pour un marathon, 30 km, c'est quelque chose d'énorme. Et pour toi, tu pars et 30 km, c'est pas plus grave que ça.
Ben maintenant, oui. Maintenant, oui. Après cet entraînement de qualité, oui, tu sais, je me souviens que lors de la première tentative, on avait beau être monté à 120, 130 km par semaine et on allait s'orienter doucement vers 150. L'une des dernières grosses sorties que j'ai faites avant d'avoir ces douleurs d'abord au genou et puis après au pied, c'était 32 km et ça me paraissait abyssal. Maintenant, bah oui, on a pris le temps de monter en charge progressivement, de faire des entraînements progressifs, de faire tantôt 10 km, tantôt 20 km, tantôt 30 et oui, effectivement, maintenant 30 km, c'est une sortie facile. Alors ça reste 30 km. Il faut s'habiller correctement, il faut se ravitailler correctement, il faut s'hydrater correctement, il faut faire attention au changement de conditions climatiques, parce que quand on part pour 30 km, attention, hein, moi quand je pars pour 30 km, je cours pas à 20 km/h comme Eliud Kipchoge, hein, donc pour moi 30 km c'est minimum 3h, 3h30 de sortie, et donc quand on part à 10h du matin, eh ben, il peut faire beau à 10h, mais à 11h, il peut se mettre à pleuvoir comme vache qui pisse, et à midi, tomber de la grêle. Donc, il faut aussi prévoir ça dans son matériel. En fait, on se rapproche un petit peu du fait de partir pour un ultra-trail. Il faut penser à avoir toutes ces affaires-là avec soi. Mais je veux dire, une fois qu'effectivement...
Je t'interromps encore une fois. Excuse-moi, mais c'est important pour moi. Ton langage est très différent de l'athlète imbécile qui dit « Moi, je vais courir 30 km le plus vite possible sans préparation. » Toi, avant même de mettre un pied sur l'asphalte, tu as effectué une préparation globale de tous les éléments qui sont essentiels à ta course et après, tu te lances.
Mais je confirme. Et encore une fois, tout le mérite en revient à la team et à Paul en particulier qui m'a préparé à me préparer à tout ça. Voilà. Et donc, pour revenir sur ta question, oui, effectivement, maintenant, pour moi, 30 km, c'est une sortie classique. Il arrive plusieurs fois dans la semaine qu'on fasse des sorties de 30. Là, dans deux jours, je prends l'avion pour aller rejoindre Paul à Luxembourg, puisque je ne réside plus à Luxembourg depuis quelques mois. Et puis, on va peaufiner un peu la préparation. Samedi, on a 60 km de prévu. Dimanche, 65. Lundi, on fait une pause. Et mardi, on refait 65 km. Alors, ça me paraît toujours un peu vertigineux de partir sur des distances comme ça, mais ça peut expliquer aussi que maintenant, pour moi, après 5 mois d'entraînement à monter en charge progressivement, 30 km, c'est facile. Mais attention, et là, je lance un gros disclaimer, c'est pas parce que c'est facile pour moi, maintenant, que ça va l'être pour tous tes auditeurs et toutes tes auditrices. 30 km, ça reste 30 km. Et puis, on parle de 30, mais on pourrait parler de 6, de 8 ou de 10 km, que ce soit en marche ou en courant. Je pense que l'essentiel, c'est d'être libéré dans son esprit, dans sa tête, être prêt à relever ce challenge, ce défi, cette micro-aventure. Et puis, quand on a un objectif qui est fixé, et si possible, à suffisamment long terme, pouvoir se dire ça rentre dans ma préparation. Donc, cette étape-là, c'est aujourd'hui 30 km, et puis demain, ce sera un 20, et puis samedi, ce sera un 60, etc., etc.
Hermano, tu parlais de la notion de flow. La manière dont tu cours, ça amène les gens, et c'est ce que j'expliquais à mes athlètes d'ultra-endurance, il faut que tu arrives dans un état où ton esprit est tellement libre que c'est ton corps qui court et ta tête se fait transporter. Mm-hmm. Est-ce que c'est le feeling que tu as?
C'est le feeling que j'ai. Je pense que tu entends mon petit bonhomme qui hurle derrière. Ouais. Je suis désolé, mais voilà, on est en condition réelle d'enregistrement.
Hein. Écoute, aucun problème avec ça, Hermano.
Écoute, c'est ce que je ressens, et je dirais même que pour moi, la sensation de flow, elle est encore plus marquée par le fait que j'ai l'impression de me détacher de mon corps quand je cours. Je sais pas si c'est des éléments qu'on t'a déjà apportés en parlant de cet état de flow, mais moi, j'ai véritablement l'impression de me voir courir, en fait. Et c'est à ce moment-là où je sens que mon corps et mon esprit sont alignés et que j'ai l'impression de me voir courir que je suis dans une espèce de transe.
Je reproduisais ces états mentaux en laboratoire et on appelait ça hypnose alerte active. Mm-hmm. Et toi, tu t'es entraîné à le reproduire, ça s'enseigne. Ça s'enseigne par des techniques spécifiques, mais toi, tu y es arrivé avec toute ta préparation. Ça a émergé de façon quasi naturelle et c'est exactement à ça qu'on doit se rendre si on veut se dépasser. Pas de soucis, pas de questionnement, pas de doute. On laisse aller, tout simplement.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le flow.
Oui, voilà. T'en es rendu où là, dans ta préparation? Est-ce qu'il y a des shows? OK, je reprends. Je fais une parenthèse. La motivation, est-ce que ça te tente à tous les jours d'aller courir et d'aller t'entraîner?
Toujours.
Ouais, magnifique.
Toujours. Écoute, on n'est pas revenu forcément sur mon passé, mais j'ai un passé de triathlète amateur. Voilà, je faisais du triathlon à un niveau régional, on va dire. Je me suis amusé, j'ai été parfois sélectionné pour les championnats de France quand j'étais jeune. Voilà, c'était marrant. Et il y avait clairement des jours où j'avais pas envie d'aller m'entraîner. Il faisait pas beau, il pleuvait, ou même il y avait trop de soleil. Et là, la motivation était pas au rendez-vous. Depuis que j'ai commencer à réfléchir à ce défi, que j'ai commencé à m'entraîner, qu'on parle de la première tentative, mais encore plus de cette deuxième tentative depuis début août 2022, il n'y a pas un jour où j'ai pas eu envie d'aller m'entraîner.
Wow, exceptionnel. Si je le comprends bien, tu consacres ta vie au sport dans un but de développement personnel.
Non seulement de développement personnel, mais aussi j'ai envie d'évangéliser tout le monde pour démontrer que le sport, finalement, c'est un état d'esprit et c'est aussi une façon de vivre, et que le sport, ou plus généralement le mouvement, c'est la meilleure chose pour entretenir son corps en santé.
Hermano, je suis en train de verser une larme parce que tu viens de dire évangéliser, et tu sais que je suis le seul homme dans l'univers à pouvoir répandre la divine parole d'exercice.
Denis, tu peux pas savoir ce que tu me fais plaisir. J'allais te dire qu'il n'était pas question de terminer cet épisode sans cette phrase fétiche.
elle remonte à longtemps. Et je crois qu'elle a marqué quelques auditeurs en France. Hein?
Oui, tout à fait.
Hey, dis-moi, Hernano, je sors un peu de ton défi Agrippa. Au niveau des podcasts, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Parce que t'es un producteur incroyable de podcasts. C'est quoi les projets sur lesquels tu travailles actuellement?
Écoute, j'ai travaillé sur... D'ailleurs, on s'est rencontrés au moment où je produisais Nip Sport. Oui. Ça s'est arrêté il y a quelques années. D'ailleurs, on en reparlait hier. On a fait un magnifique épisode où on a parlé du pendule de Foucault. Et je me souviens qu'on avait beaucoup ri pendant cet épisode. Denis, je te remercie. Allez chercher Nip Sport sur Internet et puis tapez pendule de Foucault. Vous trouverez les premières fois où Denis m'a impressionné avec cette fameuse phrase qu'il est le seul homme habilité sur Terre à répondre la divine parole d'exercice. Donc, il y a eu Nip Sport. Il y a eu Place au sport, il y a eu plus récemment le podcast de Nakan avec Grégory. On a produit quatre saisons, donc pendant quatre années consécutives, à raison de plus ou moins un épisode toutes les deux semaines.
Et puis, j'ai été le grand consultant suprême, il faut le mentionner.
Tu as été le grand consultant suprême pendant les quatre saisons. on faisait appel à toi régulièrement pour parler avec nous d'alimentation, d'énergie, de réserve énergétique, de conditions d'entraînement, de gros dodu. Hein, Denis?
Oui, des gros dodus. Hey, j'ai d'ailleurs vu, je crois, une entrevue sur Nakan avec un auditeur qui s'est appelé ex-gros dodu ou quelque chose du genre parce qu'il avait perdu du poids et qu'il avait entendu sur un de nos podcasts l'expression « gros dodu ».
Oui, tout à fait. Je te dis, tu as évangélisé en Europe, hein, Denis. Et donc, il y a eu Nakan qui s'est arrêté après cette quatrième saison. Voilà, Greg est passé sur un autre projet, toujours du podcast, toujours pas en parlant de sport, mais en ayant sur des sujets un petit peu plus approfondis. Je pense notamment à l'un de ses derniers épisodes où il aborde le sujet de la puissance en course à pied. Et je vous invite toutes et tous à aller écouter, ça s'appelle Transition. Et puis, en parallèle, depuis novembre 2020, j'ai lancé Devenir triathlète avec Olivier de Scooter. Et là, on reçoit des professionnels du triathlon. Alors, quand je parle de professionnels, je veux dire des experts, mais aussi des pratiquants, des pratiquantes de triathlon de haut niveau, de moins haut niveau. Et puis, on aborde tous les sujets autour du sport et de la performance.
Okay. Olivier de Scooter, à qui j'ai déjà parlé, qui a une entreprise de...
Qui a une entreprise de textile de triathlon qui s'appelle Ohana. D'ailleurs, le podcast s'appelait avant Ohana Triathlon. Et puis, après une petite saison, on a changé le nom pour l'appeler Devenir Triathlète pour être en relation directe avec le livre que l'on a coécrit qui s'appelle aussi Devenir triathlète et c'est finalement un livre qui se lit comme un guide où à sept mains, donc avec sept experts sous la direction d'Olivier, on a écrit le guide de comment devenir triathlète. Pour ma part, j'étais en charge de la partie matérielle, donc j'ai abordé sur une soixantaine de pages comment se mettre au triathlon et comment devenir triathlète et comment performer en triathlon avec quel matériel. On a un chapitre sur l'entraînement, on a un chapitre sur l'alimentation, on a un chapitre sur la prévention des blessures, on a un chapitre sur le time management. C'est le livre qu'on a lancé à l'hiver 2021 et c'est comme le livre s'appelle Devenir triathlète, on a renommé le podcast du même nom. Voilà.
Disponible sur Amazon?
Disponible sur Amazon, bien évidemment, et dans toutes les librairies françaises, Fnac et autres, que ce soit en présentiel ou en ligne.
Ah, magnifique. Est-ce que le succès de l'ouvrage est bon? Est satisfaisant pour toi?
Écoute, le succès est pour l'instant modestement au rendez-vous et j'en suis désolé parce qu'on a vraiment mis tout notre cœur et toute notre âme à écrire ce livre. Et puis pour revenir sur le sujet des finances, on l'a pas fait pour se faire de l'argent. Il faut savoir que quand on écrit un livre, tu pourras en parler aussi, mais nous, pour être en totale transparence, on touche moins de 15% de droits d'auteur qu'on divise à 7. Donc voilà, c'est pas
avec... Vous l'avez publié à compte d'auteur, mes méchants garçons?
Non, on l'a pas publié à compte d'auteur. On a fait appel à une maison d'édition qui par ailleurs est très bonne, qui a repris en main toute la partie illustration, distribution et autres. Mais voilà, c'est un coup.
Je suis triste, Hermano, que tu m'aies pas appelé pour que je t'explique comment on publie à compte d'auteur et comment on fait plus d'argent que si on donne nos livres à des maisons d'édition.
Eh bien, écoute, Denis,
plus jamais ça, Hermano, plus jamais.
Je ne ferai peut-être plus jamais ça, mais c'est bien la preuve qu'on n'a pas fait ça pour l'argent, tu vois.
Ah, ça, je suis tellement d'accord avec toi. Je suis tellement d'accord. Quand tu remets un livre, une maison d'édition, aussi bonne soit-elle, aussi extraordinaire soit-elle, c'est pas l'auteur qui fait le plus d'argent, c'est toujours lui qui en fait le moins. C'est l'épais, l'imbécile qui a tout mis son cœur, qui a tout écrit et qui fait le moins d'argent. Bravo les auteurs!
Merci, Denis. Bon, et puis juste pour finir
Excuse-moi, Armano,
rapidement.
excuse-moi.
Non, mais je t'en prie, je t'en prie. Et puis juste pour finir rapidement sur les podcasts, voilà, à côté de
Ouais.
ça, j'ai produit pour des marques et des organisations d'autres podcasts, notamment Vélotaf, qui est un podcast qui parle de Vélotaf. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce terme
Non?
au Canada,
Première fois que je l'entends
mais
pour moi.
alors le Vélotaf, c'est finalement le fait d'utiliser son vélo au quotidien pour aller au travail. Voilà. Ça remplace la
Ah.
voiture, les transports en commun et autres. Donc, on a produit une quarantaine d'épisodes sur ce sujet-là
OK.
avec des experts de renom. Et j'ai même terminé le podcast. J'ai pas encore publié l'épisode, mais ça ne devrait tarder avec une interview de Tristan Nitot. Alors, pour les plus geeks d'entre nous, peut-être que ça leur parlera. C'est l'un des cofondateurs de Mozilla, la fondation, et notamment le
Ah,
navigateur
OK.
Firefox. Voilà.
OK. Je pensais au Vélotaf, Hermano. Moi, ça ne serait pas très compliqué, hein? Je prendrais le vélo de mon hangar et je l'amènerais dans mon bureau à la maison. Donc, c'est moi qui transporterais mon vélo.
Écoute, c'est une façon aussi de voir le vélo taf, hein. Tu réduis ton impact carbone, Denis.
Ah, je pourrais dépenser au moins 4 ou 5 calories.
Et puis un autre podcast qui s'appelle Le Concentré Vélo, et là aussi, donc c'est sur le vélo, et j'ai eu la chance d'échanger avec des professionnels du vélo, avec des gens des collectivités locales et territoriales en France, et l'objectif c'est de donner le maximum de clés aux élus locaux et aux citoyens pour aller vers leurs élus locaux pour pouvoir implémenter au maximum le
Wow.
vélo dans leur territoire.
Hey, dis-moi, Hermano, je pense aussi que tu formes des gens à créer des podcasts. Est-ce que je me
Je
trompe?
forme, c'est un bien grand mot. En tout cas, je donne le maximum de conseils aux gens pour produire leur podcast. Moi, je crois énormément aux médias podcasts. Je suis persuadé que alors même si ça explose ces 2, 3 dernières années, et notamment pendant la période du Covid, les gens ont découvert ce qu'était le podcast et s'y sont mis à écouter massivement. Mais moi, je crois énormément à ça. Ça crée beaucoup de proximité entre les gens et donc beaucoup plus d'authenticité entre le producteur et l'auditeur des podcasts. Et puis, ça permet aussi parfois plus d'échanges de qualité, puisque souvent les producteurs sont quand même plus accessibles que certains journalistes. Ce n'est pas forcément du journalisme, le podcast. Moi, la preuve en est, hein, je produis des podcasts, mais je ne suis pas journaliste. Mais j'aime ça. Et puis l'autre avantage, c'est que le podcast, c'est un média froid. Quand vous écoutez les informations, le journal télévisé, et ben,
Ouais.
c'est à un moment T, et puis c'est terminé. Le podcast, ça s'écoute maintenant, demain, hier. Ça s'écoute, on peut dans une semaine réécouter un épisode de podcast qu'il y a des années. Et d'ailleurs, je vous encourage à aller écouter le premier épisode de podcast qu'on a enregistré avec Denis. Je vous le dis, Nip Sport, vous tapez Pendule de Foucault, puis vous allez écouter ce magnifique épisode qui date de 2014-2015, Denis. Hein, ça fait déjà quelques années.
Ah, ça fait quelques années, effectivement, oui. Hey, mais tu me parles, Hermano, et ce que j'aime du podcast, parce que j'en fais également beaucoup, c'est qu'on est libre de s'exprimer comme on le souhaite. Les gens qui n'aiment pas ça peuvent aller se faire foutre, et les gens qui aiment ça peuvent nous écouter. C'est un
J'aurais dit
monde
ça autrement.
extraordinaire.
Ceux qui n'aiment pas ça peuvent passer leur chemin et aller écouter un confrère, plutôt que de
Oui,
dire qu'ils
oui,
peuvent.
oui. Oh, quel méchant moi-même je suis, Hermano. Ah, j'ai pas l'habitude de dire des gros mots en plus. Hein? Alors, je vais le
Non, non,
corriger.
non, non, jamais, jamais, Denis, jamais.
Mais, puis on en jasait hier, Hermano. C'est cette liberté de dire, je peux faire un podcast de 30 secondes. Je peux faire un podcast comme on va faire probablement d'1 heure, 1 heure 30 ensemble. Je peux en faire un de 10 minutes, 15 minutes. Tantôt, j'en ai enregistré un qui a duré 30 secondes pour raconter que dans ma série Inspecteur paranormal, qui est une série de romans que des gens m'écrivent pour que l'inspecteur paranormal Luc Richard aille faire des exorcismes à leur maison ou chasser les esprits. Et je suis obligé de rappeler que ce n'est qu'un personnage de fiction. Mais toute cette dimension agréable, intéressante, et tu te fais connaître et tu peux vivre de ça, là. Tu peux vraiment organiser ta vie pour dire, je raconte des choses en podcast, en vidéo. Et ça va me permettre de vivre avec ma passion. C'est une
Écoute,
ère extraordinaire.
oui, J'aimerais juste pas qu'on tombe dans les travers du podcast parce que c'est extraordinaire pour ceux qui ont des choses intéressantes et authentiques à dire. Ça peut l'être aussi dans d'autres travers comme peuvent l'être les réseaux sociaux et autres. Et donc, j'aimerais bien qu'on tombe pas dans ces travers-là. Voilà.
Ouais, mais, non,
rien à voir avec ce qu'on est en train de faire ou d'échanger, Denis, bien sûr.
Non, c'est effectivement. Non, c'est certain que quand tu entres dans la discrimination, la violence et des conneries du genre, ça mériterait d'être sorti à coups de pied dans le cul de la place. Mais écoute, ils sont là, on les écoute pas, puis on est assez intelligent pour comprendre qu'on a affaire à des crétins.
Je suis bien d'accord avec toi. Puisque, bon, il faut le dire, l'univers du podcast est quand même un univers où il n'y a pas de modération. Donc, chacun est libre un petit peu de dire ce qu'il veut. Mais bon, voilà.
Ouais, et je pense pas qu'il en a affaire, qu'il faille placer, mettre, imposer de la modération. Crétins. S'il y a des crétins dangereux, écoute, écrivez à la police ou je sais pas trop, là, mais pour le reste, les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent, dire ce qu'ils veulent, tant que ça, selon moi, ça reste respectueux. Remarque que dans mon cas, des fois, je m'écoute, je suis pas certain. J'ai des doutes. Tu sais, gros de Dieu, des fois, ça passe pas toujours bien, mais bref, en tout cas.
J'étais en train de me dire, il y a bien des crétins qui s'empiffrent de cochonneries à longueur de journée et après qui se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à maigrir. Mais écoute, ça arrive.
C'est ce que je t'ai parlé de ma planète des dodus, hermano?
Oui, Denis, je t'écoute régulièrement, tu sais.
C'est bien. Non, mais c'est parce que là, je suis en train de créer le monde de la planète des dodus parce qu'en 2035, 50% de la planète va être en surplus de poids ou obèse. Alors, je raconte les nouvelles de 2035. Qu'est-ce qui va se passer? C'est assez dramatique. C'est triste, là. Écoute, on est en 2023. On est encore obligé de rappeler aux gens. Je suis obligé de parler avec des hermano qui veulent évangéliser le monde pour leur rappeler que faire de l'exercice, c'est important. Non, mais t'es où, mon quotient? T'as oublié ton quotient intellectuel? À quelle place? Hein? Écoute, non, mais c'est important de faire l'exercice 2023, là. On a besoin de te le dire. Non, mais pense-y, hermano. Comment notre travail est ridicule?
Moi, je suis un fervent défenseur de la théorie du colibri, Denis. Chacun fait...
la théorie du colibri?
Tu ne connais pas la théorie du colibri?
Ben non! Éduque-moi, hermano, s'il vous plaît.
C'est l'histoire du petit colibri. Il y a un feu dans une forêt et le petit colibri va chercher de l'eau dans une flaque d'eau et va cracher cette petite goutte d'eau sur le feu. Et il répète ce mouvement inlassablement jusqu'à ce qu'il y ait un autre animal de la forêt qui le voit faire ça et qui lui dit « Mais écoute, petit colibri, pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu t'épuises pour rien, c'est pas toi qui va éteindre le feu. » Et le petit colibri lui répond « Écoute, moi au moins, je saurais que j'aurais fait ma part et si on s'y met tous en même temps, on pourra éteindre le feu. » Voilà. C'est la théorie du colibri, je suis un fervent défenseur de ça. Si on se met tous à évangéliser, à dire rappeler que l'exercice physique est bon pour la santé, peut-être qu'un jour, tout le monde se mettra à faire un peu d'exercice physique. Et on le rappelle, c'est pas traverser la France comme j'ai l'intention de le faire. Hein. Faire 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes de marche par jour, c'est de l'exercice physique et ça vous permet de vous maintenir en santé.
Toi, hermano, je vois que tu es un philosophe. Toi, tu expliques ça avec la théorie du colibri. Moi, c'est changer le monde un gros à la fois. C'est un peu plus carré, là, mais c'est quand même ça pareil. Là, hein? Tu sais, on est dans la théorie du colibri.
Tout à fait, Denis, tout à fait.
Hermano, on a des vies, hermano, hein? Revenons à Agrippa, hermano. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines?
Écoute, dans les prochaines semaines, comme je l'ai dit déjà à très court terme, cette fin de semaine, je rejoins Paul au Luxembourg. On va continuer à monter en charge, mais de manière assez rapprochée. Je l'ai dit, samedi 60 km, dimanche 65, lundi pause, mardi 65. Ça, c'est pour les grosses étapes qu'on va franchir. En gros, on va un petit peu répéter le défi Agrippa, puisque le défi Agrippa, ce sera 50 à 60 km par jour. Donc là, voilà, on est 60-65. On sera un petit peu sur la répétition du défi. Quand je dis répétition, c'est pas uniquement d'enchaîner les kilomètres, c'est se mettre dans l'état d'esprit. Le matin, on se réveille, un petit peu de réveil musculaire, on va manger, on va faire le petit tour aux toilettes et ça permet aussi de régler certaines choses comme combien de temps il faut attendre en moyenne quand l'alimentation est bonne, quand le repos est bon, quand psychologiquement ça va, pour aller aux toilettes. Parce que je mets au défi chacune et chacun de tes auditeurs et auditrices d'aller courir 50 bornes sans avoir été aux toilettes avant. Franchement, bon courage.
Non, je ne le conseille pas à personne.
Voilà. Et donc voilà, on va être en mode répétition du défi avec ces différentes étapes qu'on va pouvoir travailler. On va pouvoir travailler aussi sur le ravitaillement. Qu'est-ce qui passe bien? Qu'est-ce qui passe pas bien? Qu'est-ce que j'aime bien? Ouais. Qu'est-ce que, au bout de 60 km, est-ce que j'ai envie de manger une tablette de chocolat? Est-ce que j'ai envie de rester sur des oléagineux? Est-ce que j'ai envie, besoin d'avoir un gel? Tout ce genre de choses. Bon, moi, j'ai déjà mon idée préconçue, prédéfinie là-dessus, mais on verra avec Paul justement comment est-ce qu'on va ajuster tout ça. Ça, c'est pour les premières étapes à très court terme. Ensuite, on va faire un petit peu de surdistance, donc on va monter jusqu'à des sorties de 70-80 km. Ça, c'est un double intérêt. Le premier, c'est faire de la surdistance, donc de travailler plus que sur des distances qu'on va être amené à faire. Encore une fois, il peut y avoir un problème, on n'en sait rien. Peut-être que le van crèvera et puis la prochaine ville, elle sera à 15 km et donc ce jour-là, au lieu de faire 60 km, on en fera 75. Et ben, comme ça, au moins, je l'aurais fait une fois pendant la préparation et je saurais à quoi m'en tenir, mais aussi à habituer mon corps sur des distances comme ça, puisque pendant le défi Agrippa, ça va être de la répétition. Tous les jours, on va courir 50-60 km pendant 27 jours, alors même s'il y aura 3 jours de pause. Mais voilà. Et puis après, on va commencer tout doucement à décharger, puisqu'on va arriver doucement sur la fin du mois d'avril, et les deux dernières semaines de mai, ça va être des semaines d'ajustement, des variables d'ajustement. Si je me sens un peu light en termes d'entraînement, on pourra continuer l'entraînement. Si au contraire, je me sens très bien en termes d'entraînement, on va pouvoir baisser un petit peu le rythme pour faire du jus, pour faire, c'est un peu du taping, c'est un peu, comment dire en français, voilà, je ne trouve plus le mot en français. Bref, taping. Les auditeurs, voilà, taping. Et après, le 11 mai, je fête officiellement les 14 ans de mon grand, de mon troisième enfant. Okay. Le 12, je prends l'avion, je vais aux côtés de Paul et puis on finit de régler tout ça. Le 14, on est sur place et le 15, on prend officiellement le départ sur la plage de Bredune vers le sud de la France.
Est-ce que ça va être documenté live en vidéo, Hermano? Parce que je te vois régulièrement courir avec ton téléphone. Et là, tu nous racontes ta vie à la course à pied. Qu'est-ce que tu fais dans la noirceur, la lampe dans le front? Écoute, t'es vraiment incroyable. Est-ce que tu vas nous faire ça pour notre bonheur personnel?
Je vais faire ça pour votre bonheur, pour ceux et celles qui veulent me suivre avec plaisir. Alors, ce sera pas forcément du live, ce sera plutôt des montages rapides qu'on va faire dans la soirée. Et je dirais même que là aussi, je me suis entouré d'une personne de ma team. Voilà, mon grand Mauro de 14 ans dont je parlais tout à l'heure m'a dit « Papa, tu m'enverras les vidéos, je te ferai les montages, je te les mettrai sur TikTok et sur Instagram et tout ça. » Voilà. J'ai trouvé un membre de ma team pour pouvoir faire ça. Donc, on va s'efforcer de faire ça au quotidien. J'avais dans l'idée de faire appel à une société de production pour faire un documentaire sur ce défi. Là encore, l'idée, c'est pas de faire la gloire, c'est pas de trouver la gloire, c'est pas de faire de l'argent. C'était au contraire de documenter ce défi et puis de mettre en avant les deux causes que je soutiens. Bon.
Malheureusement, est-ce que je peux t'interrompre?
Bien sûr.
Si tu fais un documentaire, ne fais pas que parler de ton défi. Parle de ta mentalité, parle de tout ce que tu as fait, parce que ton défi va être la concrétisation de toute ta structure de pensée, toute ton organisation mentale, toute l'équipe qui a été alentour de toi. Et je pense que ça devrait être la partie la plus importante, parce que c'est ça qui va changer les gens. C'est ça qui va amener les gens à mieux comprendre ce que doit être l'entraînement, comment on doit s'organiser pour réaliser des exploits.
Je te remercie du conseil. C'est effectivement comme ça que je l'imaginais. Après, il y a une question de coût. Un documentaire, quand c'est fait par des professionnels, il faut compter 1000 euros de la minute. Si tu veux faire un documentaire de 30 minutes, tu vois le coût. Et je disais tout à l'heure, je suis pour l'instant limité avec la partie financière. Et donc, à moins que je ne trouve un mécène, soit qui soit professionnel du domaine et qui accepte de le faire gracieusement, soit qui accepte de le financer, pour l'instant, la partie documentaire va être un peu laissée de côté.
Hey, ton documentaire, je rentre dans d'autres sujets qui risquent d'intéresser nos auditeurs, mais ton documentaire, à quel but, Hermano?
Le but, c'est encore une fois d'évangéliser sur plusieurs sujets. Le premier, c'est si moi je suis capable de le faire, si moi je suis capable de dépasser mes limites et d'arriver à atteindre mon objectif, alors n'importe qui peut le faire. Je ne suis pas sportif de haut niveau, je ne suis pas professionnel du sport, je suis juste un amoureux du sport. Et puis un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, je vais faire un truc de dingue. Voilà, j'ai couru une dizaine de marathons avant, mais je ne suis pas un surhomme. Si j'y arrive, n'importe qui peut le faire.
Où veux-tu le distribuer?
Ça, c'est la première chose. Ensuite, je l'ai dit, je veux mettre en avant les deux causes qui me sont chères, Imagine for Margot et Une bouteille à la mer, et puis, et ben encore une fois, évangéliser sur le fait qu'il faut faire de l'activité physique et sportive. Voilà.
Puis je te donne un conseil, Hermano.
Denis.
Hermano, ne paie pas une firme pour te produire ça. Ne dépense pas une foutue, excuse l'expression québécoise, ne dépense pas une foutue sacrement de scène là-dessus. Tu fais un montage, une production et tu exploites les réseaux sociaux au maximum pour promouvoir ton documentaire. Et si tu veux des conseils gratuits, ça va me faire plaisir de t'en fournir. Mais s'il vous plaît, ne dépense pas une foutue scène. Les gens n'écoutent plus les documentaires de la même manière qu'avant. Ton documentaire doit être structuré, non pas nécessairement juste dans un long documentaire, mais dans une série de multiples petits documentaires que tu vas répandre partout dans l'univers. Et ça, t'as pas besoin de mettre 1 000 € la minute, comme t'as pas besoin, quand tu produis un livre, d'un foutu éditeur, Hermano!
Merci, Denis.
Est-ce que j'ai de l'air assez enragé, Hermano, pour que tu comprennes?
Oui, Denis. Je comprends bien, je comprends bien. Je reviendrai vers toi pour avoir le maximum de conseils.
Absolument, absolument, Hermano. Et tu sais que tu peux tout faire produire pour toi-même. Ton gars de 14 ans peut faire mieux qu'une maison d'édition, qu'une maison de production, Hermano.
Oui, peut-être, peut-être.
Peut-être.
On va voir.
Peut-être. On en reparlera, Hermano, on en reparlera. Mais s'il vous plaît, dépense pas une scène pour ça.
Non, mais de toute façon, tu vois, je te l'ai dit, je suis arrivé à la conclusion qu'il faudra certainement faire un trait sur ce documentaire. Mais prendre tous les rushs de tous les petits messages, de toutes les petites vidéos que j'enregistre, et notamment tout ce suivi au quotidien que j'essaye de faire pendant mon entraînement.
Non, Hermano, arrête de tes limites. Moi, j'ai suivi, là, je me vante, là. Excusez-moi, là, tous ceux qui nous écoutent, là. J'ai suivi de nombreuses formations sur la production de vidéos et de documentaires par des professionnels. Je vais te fournir tous mes conseils, tout ce que j'ai appris gratuitement et avec plaisir. N'impose aucune limite à ton documentaire. Toutes les petites crottes de vidéos que tu vas saisir ici et là vont servir à quelque chose d'extraordinaire. Il faut qu'on en reparle, Hermano.
On en reparlera, Denis. Ce sera l'occasion de faire un autre enregistrement de podcast pour faire la promotion de ce documentaire, Denis.
Hey, tu sais qu'Hermano, on devrait se reprendre plus souvent, hein?
Je suis ton homme, Denis.
Magnifique. Excellent. Hermano, c'est sûr que je te réinvite. C'était vraiment un plaisir. En terminant, je voudrais rappeler Agrippa. Attends-moi, là. Je veux juste que les gens le voient comme il faut. Hey, ce que je peux dire, je vais me permettre de dire quelque chose de méchant, Hermano. J'envoie ça. Agrippa.me. Je suis un peu déçu, Hermano. Je dois te parler du maudit français. Tu sais, parce que nous autres, au Québec, des fois, quand on parle de vous autres, là, on les appelle les maudits français. Parce que je t'explique le contexte et je t'explique où je veux venir. Moi, il y a des gens de la France qui m'écrivent. Ils me demandent des conseils ou des analyses de ci ou de ça. Ils pensent que c'est gratuit. Alors, quand je leur dis « Oui, je peux le faire, mais ça va te coûter tant. » « Ouais, mais putain, c'est quoi cette histoire, mec? Hey, tu veux me voler, quoi? Tu veux me charger de l'argent? Va te faire foutre, putain! » Et ça, c'est la réponse que j'ai. Et là, je leur réponds poliment. « Ouais, mais foutu, enfoiré. Comment est-ce que tu penses que je vis, moi? Hein? Je gagne mon argent comment, crétin? Comment est-ce que tu crois que je paie mes factures à la fin du mois? » On dirait que le français pense que tout est gratuit. Et là, ce qui me déçoit, c'est que j'ai fait un lien, là. Comme je crois qu'il pense que tout est gratuit, il ne veut pas sortir d'argent de ses poches pour financer un magnifique projet comme le tien qui va servir à aller donner de l'argent à des organisations extraordinaires, des organisations que tu as à cœur. Et aujourd'hui, j'aimerais dire, Hermano, que le français me déçoit et que je lui botte le cul et que je l'invite à aller sur agrippa.me pour faire un don. J'invite les Canadiens à le faire, Hermano.
Denis, je te remercie pour ce coup de gueule dont tu as le secret et d'avoir mis ça en avant. Et puis, je voulais juste compléter qu'effectivement, vous allez sur agrippa.me, vous trouvez deux boutons pour donner, soit sur Patreon, soit sur Ko-fi. Et ce sont deux plateformes qui reçoivent les dons et qui savent très bien gérer les paiements en dollars américains, en dollars canadiens, en d'autres devises. Donc, quel que soit l'endroit du monde où tu te trouves, toi, mon petit, mon gros dodu, toi, mon cher auditeur, toi, ma chère auditrice, appuie sur le bouton et donne à j'ai exagéré, je suis parti dans ton délire, Denis.
Hermano, c'est parfait comme ça. Hey, Hermano, c'était tellement un plaisir. Hey, je te remercie d'avoir été là. Écoute, on fait le suivi de ton projet et je te réinvite pour discuter de toute autre chose qui pourrait être intéressante pour nos gros auditeurs.
Je te remercie, Denis. C'était vraiment un plaisir d'être avec toi à nouveau, de pouvoir échanger avec, avec autant de sympathie et puis sans aucun garde-fou. On a dit ce qu'on voulait, comme on voulait, quand on voulait. Et voilà, on a même dit des gros mots. Fais gaffe, tu vas te faire bannir de chez YouTube. Mais bon, voilà, tu le sais.
Je me suis fait bannir de Facebook récemment. Tu le savais pas, hein? J'ai un nombre de plaintes astronomiques. Et je comprends pas pourquoi. Je suis d'une douceur et d'une gentillesse incroyable.
Mais tu sais, tu parlais des maudits français. Mais moi, il y a un truc qui m'impressionne de l'autre côté de l'Atlantique, c'est que on prend l'exemple des États-Unis. On est majeur à 18 ans. On peut voter à 18 ans. Par contre, on ne peut boire de l'alcool que à 21 ans. Mais d'un autre côté, on peut regarder du porno. On peut avoir une arme à partir de du jour où on est. Et, voilà, écoute, il y a des antagonismes dans la façon de penser, dans la façon d'être qui fait que il y a des foutus français, il y a des maudits français et puis il y a des états d'esprit différents au Québec.
Et je vais t'annoncer que le prochain président des États-Unis, il va te plaire. Ça va être de nouveau ton ami Orange dont tu m'as parlé tout à l'heure.
qui disait qu'il n'y a pas de problème sur le climat, etc., etc.
Hey, il faudrait parler du climat dans un prochain Hermano.
Écoute, on en parlera.
Tu risquerais de me détester. Moi, je suis pro environnement, mais tu risquerais de me détester.
Parce que tu as un bon gros SUV dans ton garage et tu continues à consommer comme un cochon.
J'ai une voiture hybride, mon cher. Je consomme très, très peu d'essence, mais faudrait que je te parle de ma vision du réchauffement climatique en tant que scientifique. Mais on ne l'abordera pas, là.
Tant que tu ne me dis pas que c'est un problème d'alimentation des gens qui génèrent trop de méthane, ça me va.
OK. Non, je vais te dire une affaire. Moi, Hermano, en terminant, là, OK, on a le droit de se laisser aller. Là. Moi, je pense, c'est méchant ce que je vais dire, c'est très rare, je suis méchant. Je pense qu'aucun gros sur la planète ne peut être écologiste. Aucun gros sur la planète ne peut prétendre qu'il fait attention à l'environnement. Pourquoi? Parce qu'il mange plus que nécessaire. Et s'il mange plus que nécessaire, c'est donc qu'il exploite davantage les ressources de la planète. Il exploite trop les ressources de la planète. Alors, la prochaine fois qu'il voudra parler d'environnement, il faudra qu'il maigrisse. T'es pas d'accord, Hermano? Dis-moi là, est-ce que j'exagère?
Non!
Oui! Non, merci. Voilà, merci, Hermano, merci. C'est vrai.
Je pense que sur cette bonne parole d'exercice, tu peux clôturer, Denis.
Ah, oh, OK, bon, c'est bon. Hermano, agrippa.me, merci, à une prochaine.
Merci,
mon
Denis.
Mon téléspectateur, ma grosse téléspectatrice, à la prochaine.